السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم. Comme la fois passée, inshallah ta'ala, nous allons lire quelques fatwa. La fois passée, on avait lu quelques fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. On va lire aujourd'hui quelques fatwa du Cheikh Mohamed Ali Firkous Hafidahullah, qui, comme vous le savez, est un savant ici en Algérie. Quelqu'un qui a le doctorat en sciences islamiques, très connu en Algérie, très connu en Arabie Saoudite par des savants. D'ailleurs, ses études ont été faites en Arabie Saoudite. Je vais vous lire quelques-uns, inshallah ta'ala, de ces fatwa et de ces avis, bi'idhnillah subhanahu azza wa jal. Tayyib. Il a dit ici, Isqatu ad-dayni 'an al-faqir yujzi'uhu 'an az-zakat, wa huwa qawlu 'Ata' wa al-Husayn, wakhtarahu ash-Shawkani. Wakhtarahu ash-Shawkani. Que veut-il dire ici? Vous savez, si par exemple, je vais prêter de l'argent à quelqu'un. Supposons que je prête 100 euros, supposons, c'est un exemple, que je prête 100 euros à Omar. Et ensuite, maintenant, c'est, par exemple, le moment de donner ma zakat. Et que ce Omar est quelqu'un de pauvre. Est-ce que maintenant, et moi, bien sûr, c'est le moment de donner la zakat, est-ce que c'est possible, par exemple, au lieu que je donne la zakat, par exemple, que je dise à ce Omar, je lui dis, donc c'est pas la peine de me rendre les dettes. Ce que je t'avais prêté, naam, je vais le compter comme zakat. Cette chose-là, yani, les savants ont divergé en cette chose. Il y en a qui ont dit ce n'est pas permis, et il y en a qui ont dit c'est permis. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, d'après ce que je connais moi, ce que je lui ai lu comme livre, dans certains livres, il dit c'est permis, dans d'autres, il dit ce n'est pas permis. Allah Azza wa Jal, a'lam. Al-Muhim, le Cheikh ici, Hafidhullah Allah, dit, mon avis, c'est qu'il est permis. C'est qu'il est permis. Et il a dit, c'est l'avis de Hassan al-Basri. C'est l'avis de Ata, dont Abi Rabah, très connu. C'est l'avis de Shawkani. C'est l'avis de l'imam Shawkani, alayhi rahmatullah. Ensuite, il a dit ici autre chose. يجوز للمقترض عند رد الدين أن يعطي أكثر مما أخذ إذا كان الدافع إلى ذلك يعني طيبة نفسه وطيب نفسه ولم يكن ذلك مشروطا ابتداء. Il a dit, il est permis pour quelqu'un à qui on a prêté de l'argent, il a dit, maintenant, cette personne qui va rendre l'argent, je vais donner un exemple, par exemple, quelqu'un m'a prêté 100 euros. Maintenant, par exemple, j'ai les 100 euros, je veux les lui rendre. Cheikh ici, Hafidhahullah, a dit, il est permis si, lorsque je lui rends ces 100 euros, je lui ajoute quelque chose de moi, c'est-à-dire, au lieu de lui rendre 100, je lui rends 110, ou bien 120, ou bien 150, ou bien 200. Ou bien je lui rends 100 euros, et je lui donne un cadeau, une montre, un réveil, un livre. Et comme ça, il a dit, c'est permis à deux conditions. La première, que ce soit moi qui veuille le faire. Yani, c'est de mon propre gré. La deuxième condition, que ça ne soit pas conditionné, que ça ne soit pas mis comme condition quand tu m'as prêté cet argent. C'est pour ça que certaines personnes croient que ça rentre dans l'usure. Là, ça rentre dans riba, ou là, ça rentre dans rachwa, ou là. Ils vont dire comment? Il t'a prêté 100, tu lui rends 110. C'est ça justement les intérêts, c'est ça le haram. Tu lui dis non, je lui ai rendu 110 de mon propre gré. Je ne me suis pas mis d'accord, je ne suis pas mis d'accord avec lui. Prête-moi 100 et je te rends 110. Mais je lui ai dit prête-moi 100 euros et je te rends 100 euros. Et maintenant, je veux lui en rendre plus. Il a dit c'est permis, bien sûr. Il a cité les hadiths dans Sahih Muslim, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, istalafi min rajulin bikran wa qada bi khiyarin raba'i. Le messager d'Allah a quoi? A, bon, disons, attention, on dit prêter ou l'a emprunté. Emprunté, prêter. Il a demandé à quelqu'un de lui donner, enfin, comme prêt, lui donner, disons, un mouton de, disons, de bas âge. Et même un mouton, on peut prêter, vous savez, vous dites à quelqu'un, allez, prête-moi un mouton, après je te le rends. Quand j'achète un mouton, je te rends ton mouton. Et quand il lui a rendu son mouton, il lui a rendu quelqu'un de plus âgé. De plus âgé. Et donc, où est le délit? Le délit, c'est que lui, Ali, quand il a pris un jeune mouton, par exemple, de nos jours, par exemple, disons ici en Algérie, par exemple, il fait, par exemple, hein, il fait 1 million de centimes. 1 million de centimes. Mais un mouton de 3 ans ou là 4 ans, ou là, sûrement qu'il fait au moins 3 millions de centimes. Donc c'est comme si on lui a prêté 1 million et il a rendu combien? Il a rendu 2 ou 3. Même dans les animaux, c'est la même chose. Car sinon, tu me prêtes un mouton de 6 mois, je dois te rendre un mouton de 6 mois. Tu me prêtes un mouton de 15 kilos, je te rends un mouton de 15 kilos. Mais le messager d'Allah a rendu un mouton beaucoup plus grand et plus âgé et plus fort. Non. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, inna khiyar nas ahsanhum qada'an. Il a dit, les meilleurs des gens, ce sont les meilleurs qui rendent bien leur dette. Et rendre bien la dette, c'est rendre la dette et en donner plus. Non. Wa fi hadith Jabir inda shaykhain kana li ala rasul sallallahu alayhi wa sallam haqq faqadani wa zadani. Et dans un autre hadith qui se trouve dans Bukhari Muslim, que Jabir ibn Abdillah a dit, j'avais, yani, le messager d'Allah était endetté sur moi, c'est-à-dire qu'il me devait quelque chose. Il a dit, il m'a rendu ma chose et m'en a ajouté. Il m'a rendu ma chose et m'en a ajouté. Donc, je résume, si quelqu'un me prête, par exemple, une chose, en la rendant, en la lui rendant, je peux lui en donner plus. Et c'est la meilleure des choses. Rendre plus, c'est mieux que de rendre seulement la chose. Car c'est une preuve que quoi? Que yani, on a reconnu yani, la faveur de la personne et on la remercie. Non. Car en ne lui rendant que sa chose, tu n'as rien fait. Tu lui as rendu seulement sa chose. C'est une chose obligatoire. Et maintenant là, tu la remercies. Et remercier, ça peut être. Ça peut être par la, yani, en parlant, comme ça peut être en faisant des cadeaux et comme ça. Non. Autre chose, inshallah ta'ala, il a dit. القول بمشروعية التكبير للسجود التلاوة هو ما أختاره وأرجحه، لأنه إذا لم يثبت أمر التكبير بسجود التلاوة وجب المصير إلى النص العام. لا إلى الأصل العدمي الذي هو استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل عنه. الشيخ حفظه الله qu'est-ce qu'il dit ici? Vous savez que quand quelqu'un est en train de lire le Coran, quelqu'un est en train de lire le Coran, ensuite il arrive à un verset où il y a normalement une prosternation. Il est dans la salat et il arrive à un verset où il y a une prosternation, où Allah Ta'ala, par exemple, dit « Fasjoudou ». Là, les savants ont divergé. Est-ce que, en descendant maintenant, je suis dans la prière, est-ce qu'en descendant pour faire ce sujoud, est-ce que je peux dire Allahu Akbar ou je ne dis pas? Ou est-ce que je dois le dire ou je ne le dis pas? Comme vous savez, certains ont dit il faut dire ce takbir, et certains ont dit non, on descend comme ça, et on fait le sujoud et on se relève, sans dire Allahu Akbar, ni quand on descend, ni quand on se relève. Ici, le Cheikh Hafidhahullah a dit, mon avis, l'avis que je choisis, c'est de dire Allahu Akbar pendant ce sujoud. C'est de dire Allahu Akbar pendant ce sujoud. Il a dit, quel est le dalil? Il a dit parce que s'il n'y a pas un dalil clair en ce sens, car il n'y a pas un dalil qui dit, quand vous faites le sujoud de la prosternation, dites Allahu Akbar. Il a dit, il n'y a pas ça. Il a dit, mais n'empêche que il y a un dalil global, il y a un dalil général. Que dit le dalil global? Le dalil général, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yukabbir, il dit Allahu Akbar, fi kulli raf'in wa khafd, à chaque fois qu'il se relève et à chaque fois qu'il descend. Et dans chaque, à chaque fois qu'il est debout, à chaque fois qu'il est assis. Rawa Ahmed, donc le hadith d'Abdullah ibn Saoud, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le messager d'Allah, à chaque fois qu'il s'inclinait, qu'il se relevait, qu'il se prosternait, qu'il s'assied, il disait Allahu Akbar. Il a dit ici, donc, je prends moi de ce hadith global qui dit que quand on est dans la salat, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, se lever, etc., on dit Allahu Akbar. Et il a dit donc, le fait de se prosterner, dans la salat pour faire la prosternation de la récitation, il a dit ça rentre dans cette globalité. Naam. Dans une autre fatwa, il a dit la yajuzu bay'u sil'atin mu'ayyanatin ma'a ishtirati akhdhi shay'in akhar ma'aha. Il a dit il n'est pas permis. Et ça, ce que je vais dire, ça se trouve dans beaucoup de magasins, subhanallah l'adim. Et ça fait que c'est haram. Quelle est cette chose? Il a dit, il n'est pas permis de vendre une chose en mettant comme condition que tu dois acheter autre chose avec elle. Subhanallah l'adim. Vous avez remarqué, ça se trouve dans beaucoup de magasins. Il te dit, yani, je te vends par exemple cette chose à condition que tu prennes autre chose avec elle, sinon je ne te vends pas. Surtout yani, certains vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque yani, leur marchandise ne marche pas. Par exemple, ils ont une certaine marchandise qui ne marche pas. Supposons ils ont, par exemple, disons, des sacs de riz qui ne marchent pas. Maintenant, si tu veux acheter du riz, si tu veux acheter, par exemple, quelque chose dont tu as besoin, comme le lait, comme je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va te dire, je te vends yani, un litre de lait à condition que tu prennes aussi un kilo de riz. Sinon, je ne te vends pas. Tout cela est interdit en islam. Il a dit, surtout, si la chose qu'il veut te vendre, qu'il a mise dans la condition, surtout si elle contient un défaut, ou là, elle est périmée, ou là. Aucun de cela réel maroufia. Non. Il a dit, c'est une condition invalide. Pourquoi? Parce que vous savez que dans la tijara, dans le commerce, je n'achète que ce dont j'ai envie. Ce n'est pas, subhanallah l'adim, tu vas me forcer à ce que j'achète une chose dont je n'ai pas envie, ou bien que je vais jeter. Subhanallah l'adim, il n'y a pas de commerce en ce sens. Naam. طيب لأنها هو العقد من أصله لكون منافي المقصود أصله يشتري صبي عقد آخر. Et la même chose, si par exemple quelqu'un dit à quelqu'un, je te vends telle chose à condition que toi aussi tu me vendes telle chose. Naam. Je te vends mon vélo à condition que tu me vendes par exemple le cheval que tu as. Naam. Je te vends ma maison à condition que tu me vendes yani, ta voiture. Et comme ça, yani, quand je veux vendre, je fais une condition. Comme a dit le messager d'Allah, لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. نعم، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، حديث اوثنتيك. طيب اوتر شوز، ان اوتر افي سور ان اوتر شوز، vous savez que les savants ont divergé sur le fait de faire la prière. نعم عفوا، pas de faire la prière. Sur le fait de s'habiller avec le rouge. Avec le rouge. نعم. Certains, comme Ibn al-Qayyim, rahmatullah, a permis à condition que le vêtement hada, le pantalon, la veste ou là, à condition qu'elle soit mélangée. C'est-à-dire qu'elle comprenne des rayures, par exemple. Des rayures noires, ou bien une partie rouge, une partie bleue, et comme ça. نعم. Mais l'avis de Ibn al-Qayyim, rahmatullah, et beaucoup d'autres, disent s'il est seulement rouge, نعم, il est interdit de le mettre. Et d'autres, comme vous savez, ont permis qu'une personne mette le rouge. Et ils ont cité un hadith du messager d'Allah, qui l'ont vu avec le rouge. En mohem, l'avis du cheikh ici, alayhi rahmatullah, dit que as-salatu, yani la salat, en mettant, même en ayant le rouge, نعم, sahiha, est une salat valide, نعم, min ghayri kara, sans qu'elle soit déconseillée. Et Ada, le rouge, Ada, c'est surtout pour les hommes. Nam. Car le messager d'Allah, quel est le délit que ce n'était pas pour les femmes? Le messager d'Allah a vu quelqu'un yani, comme ça habillé en rouge et il lui a dit, est-ce que c'est ta mère? Nam, est-ce que c'est ta mère qui t'a dit de le mettre? Hadith authentique. Les savants ont dit, donc la mère, la femme, a l'habitude de dire à ses filles, de dire à ses filles, mettez-le, yani, habillez-vous en rouge. Il a dit donc c'est un délit que les femmes mettent le rouge. Non. Taïb, maintenant autre chose. D'après son avis aussi, dans une autre chose, il a dit يجوز صيام السبت مضافا إلى يوم قبله أو بعده عملا بقاعدة تقديم الجمع على الترجيح. وهنا هو ممكن. نعم. Il a dit, d'après mon avis à lui, son avis à lui, il a dit, il est permis de jeûner le samedi, à condition qu'il jeûne un jour avant ou un jour après. C'est-à-dire, il jeûne par exemple vendredi, samedi, ou bien samedi, dimanche. Et il a dit aussi, comme il est permis de jeûner le samedi seul, à condition, yani, que le samedi rencontre un jour de siyam, comme par exemple Arafa, naam, ou bien par exemple siyam, naam, comme Arafat par exemple, naam. Il a dit dans ce cas ça ne rentre pas dans le haram. Il a dit mais le haram c'est quelqu'un qui va choisir spécialement le samedi seul pour jeûner. Il va dire chaque samedi par exemple je vais jeûner. Ou bien demain c'est samedi, je vais jeûner. Comme ça, c'est lui qui choisit le samedi. Mais ce n'est pas Arafat qui, par exemple, qui est tombé le samedi. Non. Et bien sûr, comme vous savez, dans cette chose aussi, il y a une divergence. Mais je vous ai donné, inshallah ta'ala, son avis. Et il va citer aussi autre chose ici, un autre avis. Il a dit, At-talaqu fi zamani al-hayd yaqa ma'a al-ithm. Il a dit, Si quelqu'un divorce pendant la période de menstrues, le divorce est valide et celui qui a divorcé a des péchés. Vous savez que aussi dans cette chose, il y a une grande divergence. Et que Cheikh Ibn Baz, et je crois même Cheikh Ibn Uthaymeen, si je ne me trompe pas, sont de l'avis qui disent que, mais Cheikh Ibn Baz, j'en suis sûr, que de l'avis que yani le divorce n'est pas valide s'il est fait, ou là, s'il est dit pendant la période de menstrues. Mais ici, le cheikh, rahmatullah, il dit que, yani, mon avis, c'est que le divorce est valide, mais que seulement l'autre, celui qui l'a dit, a les péchés. Et c'est l'avis de qui? Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Ensuite, quand vous savez aussi que c'est mon avis aussi, vous le savez, c'est l'avis, yani, quand quelqu'un me demande, je me base toujours sur cet avis. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a authentifié dans Irwa Al-Ghalil, dans l'affaire du divorce de Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. quand il a divorcé sa femme et qu'ensuite il l'a rendue ou bien il a voulu la rendre. Naam. Le messager d'Allah, dans un hadith authentique, dans une version authentique, naam, il lui a quoi? Il lui a conté ce mariage. Il l'a divorcé dans les menstrues et le messager d'Allah lui a dit, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Yani, reprends-la et tu attends. Yani, qu'elle n'ait plus les menstrues, ensuite tu la touches pas jusqu'à ce qu'elle ait les menstrues, ensuite tu la touches pas, naam, jusqu'à ce qu'elle soit pure, et là-bas tu vas choisir entre la divorcer ou la laisser chez toi. Mais, dans une version authentique, il a dit, mais il lui a compté ça comme un divorce. Donc, quelqu'un qui divorce sa femme dans les menstrues, ça compte. C'est un divorce, mais seulement celui qui l'a divorcé, qu'est-ce qu'il a? Il a des péchés. Naam. Ensuite, autre chose ici, vous savez aussi que la femme qui a les menstrues, vous savez que il y a des divergences entre les savants. Est-ce qu'elle peut rentrer dans la mosquée ou elle ne peut pas rentrer? Hein? Et l'avis de la plupart des savants, il ne lui est pas permis de rentrer dans la mosquée jusqu'à ce qu'elle se purifie. N'empêche qu'il y a certains savants qui ont dit qu'il lui était permis de rentrer dans la mosquée, même si elle n'était pas purifiée. C'est l'avis de yani Ibn Hazm rahimahullah et l'avis de Sheikh Al-Albani rahimahullah. C'est aussi l'avis du Sheikh ici. C'est aussi l'avis du Sheikh ici. Il dit, yajuzu lil ha'id dukhul masjid. Il a dit, celle qui est menstruée, il lui est permis de rentrer dans la mosquée. Et il a cité certains délits, je vous cite certains en passant comme ça très vite. Khaba Ummi Muhjin. Vous savez qu'il y avait une femme qui, au temps du messager d'Allah, s'occuper de quoi? S'occuper du fait de attendez, comment on dit? Disons de laver la mosquée. Naam. Laver la mosquée, etc. Enlever tout ce qu'il y a, etc. Naam. C'est tout ce qu'elle faisait. Et où est-ce qu'elle habitait? Elle n'avait pas où habiter, car c'était une kafira. Ensuite, elle est rentrée en islam. Et comme elle n'a ni famille ni rien, le messager d'Allah lui a donné quoi? Lui a permis qu'elle mette une tente à l'intérieur de la mosquée. Donc, à l'intérieur de la mosquée, elle avait quoi? Elle avait une petite tente, comme ça, disons dans le coin, dans un coin de la mosquée. Elle habitait là-bas tout le temps. Et les savants ont dit, cette femme, quand elle habitait dans la mosquée, il fallait bien que, une fois par mois, elle ait ses menstrues. Et jamais on a entendu que le messager d'Allah l'empêchait de rentrer dans la mosquée pendant la semaine où elle avait des menstrues. On n'a jamais entendu que cette femme dormait dans la rue une semaine par mois. Donc, ils ont dit, c'est un délit, que même avec les menstrues, elle restait dans sa tente, et la tente se trouve où? Se trouve dans la mosquée. Et ils ont cité aussi autre chose. Ils ont dit, la tribu de Thaqif, une grande tribu, est venue chez le messager d'Allah pour apprendre l'islam. Et le messager d'Allah les a laissés dans la mosquée un certain temps. Je ne sais pas combien, un mois, 2 mois, 3 mois, pour qu'ils apprennent l'islam, ensuite ils sont repartis. Et cette tribu sont venues hommes, femmes et enfants. Les savants ont dit, donc il y avait des femmes avec eux, avec cette délégation, et comme je vous disais, ils ont passé tout leur temps là pour apprendre dans la mosquée. Et le messager de là n'a pas dit, est-ce que celle qui n'est pas les menstrues, yani qu'elle rentre pas dans la mosquée, qu'elle rentre pas dans la mosquée. Et bien sûr, le hadith que vous connaissez tous, le hadith que vous connaissez tous, où le messager d'Allah a dit à Aïcha radiallahu ta'ala anha, quand elle a pleuré dans la Omra parce qu'elle a eu les menstrues, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, fais tout ce que fait le Hajj, mais ne tourne pas autour de la Kaaba. Fais tout ce que fait le Hajj, mais ne tourne pas autour de la Kaaba. Et que fait le Hajj? Le Hajj, qu'est-ce qu'il fait? Le Hajj, entre autres, il lit le Coran. Vous pouvez me demander le nom de cette femme qui nettoyait la mosquée. Cette femme qui nettoyait la mosquée s'appelle, enfin je vous dis sa kunya. On me demande quel est son nom, je dis sa kunya. Ummu Mihjan. Ummu Mihjan. Et cette femme, comme je vous ai dit, pourquoi le messager d'Allah l'a fait habiter dans la mosquée? Parce que c'était une kafira. Elle est rentrée en islam et elle n'a pas où habiter. Et elle est restée comme ça des années jusqu'à ce qu'elle soit morte. Et je vais vous donner quelques intérêts ou la, yani, en ce qui concerne cette femme, yani, le fait, yani, sa façon de rentrer dans l'islam est une façon, yani, vraiment, yani, extraordinaire, extraordinaire. C'était une esclave chez les kofars. Et un jour, subhanallah, un jour, elle est sortie en voyage avec, avec ses maîtres, etc. Ses maîtresses et ses maîtres, etc. Et, une seconde. Et, elle avait, entre autres, elle avait quoi? Elle avait une chaîne d'or. Une chaîne d'or qui était la chaîne de sa maîtresse, pas sa chaîne à elle. Elle l'avait sur le cou comme ça. Et elles étaient en voyage toutes. Et voilà que, subhanallah, il y a le had'atou, je sais pas comment on appelle ça, c'est un oiseau, une sorte d'oiseau, une sorte de pigeon, etc. Mais que vous connaissez tous, qui vient comme ça dans le ciel et qui descend pour prendre les poussins, pour prendre les poules, etc. Ce n'est pas comme bien sûr le pigeon qui ne fait rien. Le mohim, subhanallah, cet oiseau est descendu et en voyant le collier de loin comme ça briller, il a cru que c'était quelque chose qui se mangeait ou là. Il le lui a pris de son cou. Il le lui a pris de son cou. Et il s'est envolé avec. Subhanallah l'adhim. Ensuite, la maîtresse de cette femme lui a demandé, lui, bien sûr, personne n'a vu ça, sauf elle, quand elle était seule ou la naam. Alors, sa maîtresse, ensuite, elle lui a demandé, yani, ou bien son maître, yani, donne-moi le collier. Elle a dit, yani, je ne l'ai pas, c'est l'oiseau qui l'a pris, ça, bien sûr, personne n'a voulu la croire. Et. Yani, on a commencé à chercher ce collier, yani, dans ses vêtements, dans ceci, dans cela. Yani, le hadith a dit, jusqu'à ce que, yani, subhanallah, on l'a dénudé. On l'a complètement dénudé et on a cherché dans toutes ses parties. En disant peut-être elle l'a caché dans ses parties intimes ou je ne sais pas où. Al-Muhim, quand on lui a fait ça, naam, vraiment, 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 elle a été touchée qu'on arrive à ce que, yani, on n'ait pas confiance en elle jusqu'à ce qu'on lui fasse ça. Et quand ils étaient en train de faire cette chose, subhanallah, cet oiseau est revenu de nouveau et subhanallah, a relâché le collier qui est tombé comme ça entre leurs mains. Et quand ils ont vu ça, ils ont reconnu leur faute et ils ont reconnu que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas bien, etc. Et elle, naam, quand maintenant on a commencé à lui demander de l'excuser, etc. Et ce hadith se trouve dans le Bukhari. Elle a dit, moi c'est terminé entre vous. Je vous quitte et c'est ça ce que, yani, pour vous pardonner, c'est ce cas, c'est yani, la séparation. Et elle est allée vers yani, Médine où yani, elle a cherché là-bas, yani, elle a rencontré le messager d'Allah, elle lui a raconté, etc. Et il lui a dit, Marhaban bek, et, on est content pour ton islam, etc. Et bien sûr, voilà la mosquée. Tu peux, yani, on va te donner une tente. Tu vas habiter ici jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Ta'ala fasse quelque chose. Et elle a habité dans la mosquée, naam, toute sa vie, jusqu'à ce que, une fois, le messager d'Allah a dit, naam, il a dit, cela fait un jour ou les deux que je n'ai pas vu Mihjan. Où est-elle? On lui a dit, subhanallah l'adhim, elle est morte hier et on l'a enterrée la nuit. Il a dit, subhanallah l'adhim, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Ils ont dit quelque chose en ce sens que, yani, on n'a pas voulu te déranger. Et le messager d'Allah est allé alors faire la salat sur elle, sur sa tombe. Et de là, on prend quoi? On prend deux choses. La première, qu'il est permis. Il est permis de quoi? Il est permis de faire la salat sur sa tombe. C'est-à-dire, si quelqu'un va par exemple au bled et il trouve que, par exemple, son oncle est mort et que lui n'a pas fait la salat sur son oncle, bien sûr, il peut aller au cimetière et faire la salat sur sa tombe. Ça, c'est la première des choses, premier intérêt. Mais les savants ont dit à condition que la personne qui soit morte, yani, soit morte dans le temps où nous, on faisait yani, on était vivants, on faisait la salat. C'est-à-dire pour ne pas dire que maintenant quelqu'un va dire je vais faire la salat sur mes aïeux, mon arrière-grand-père, je vais faire la salat sur les grands savants qui sont morts autrefois, je vais faire la salade sur les compagnons du prophète, et comme ça. Tout cela, naam, ça ne rentre pas dans notre situation. Et on prend un deuxième intérêt, lequel? C'est qu'il est permis de quoi? D'enterrer une personne la nuit. Car cette femme a été enterrée la nuit, et qui a été enterrée aussi la nuit, et le messager d'Allah a été enterré la nuit. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala a été enterré la nuit. Et Fatima, la fille du prophète sallam, a été enterrée la nuit. Et Ummu Mihjan, dont on est en train de parler, a été enterrée la nuit. Donc si quelqu'un vous dit qu'il n'est pas permis d'être enterré la nuit, dites-lui alors pourquoi le messager d'Allah sallam est mort mardi pendant la journée, le matin, et on l'a enterré mercredi la nuit. Pourquoi? Est-ce qu'on enterre le messager de la sallam? Est-ce qu'en l'enterrant, on va faire, les sahabas vont faire, vont être unanimes pour faire une ma'siyah, pour faire une désobéissance et un péché? Et comme je vous ai dit, Abu Bakr a été enterré la nuit, Fatima la nuit, et cette femme, Umm Mihjan, elle a été enterrée la nuit. Taïb, c'est en ce qui concerne Umm Mihjan, radiallahu ta'ala anha. Taïb, autre chose. Le cheikh ici va parler d'autre chose. Il a dit que il était permis pour une personne qui allait grouper entre deux salats, il était permis de quoi? De faire le zikr entre les deux. Supposons que je veuille grouper entre Zohr et l'Asr. Bon, j'ai fait salat Zohr maintenant. Et je vais faire salat al-asr derrière le dhohr. Quand je termine le dhohr, le cheikh dit, il est permis de faire quoi? Il est permis de faire le dhikr. De faire subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, akbar, et comme ça. Naam. Parce que certains disent, puisque je vais regrouper entre les deux salats, donc je ne vais pas faire le dhikr. Yani je termine le dhohr, je me lève, je fais l'iqama et je fais le asr. Le cheikh dit, non, c'est permis de faire le dhikr. Cheikh Ibn Uthaymin, yani, alayhi rahmatullah, va plus loin. Il a dit, c'est même permis de faire la nafila. C'est même permis de faire, par exemple, l'Adh, ensuite les deux qui viennent après l'Adh, ensuite juste Salat al-Asr. Il a dit, parce que l'essentiel, que c'est quoi? C'est d'avoir joint entre les deux salats, hein, pendant la première heure, ou bien pendant la dernière heure, mais faire le dhikr. Au milieu où il y a une autre salat, il a dit tout ça, ce n'est pas interdit. Bi'idhnillah azza wa jal. Naam. Autre chose, il a dit ici, un autre avis, il a dit, يجوز للمرأة أن تكشف قدمها في الصلاة ما لم تكن مع الأجانب وهو اختيار ابن عثيمين رحمة الله. Il a dit, d'après le cheikh, il est permis à la femme, il est permis à la femme qui fait la prière, naam, de montrer, yani, ses pieds. Il a dit, ce n'est pas interdit si ses pieds sont visibles quand elle est en train de faire la prière, à condition, il a dit à condition, qu'elle soit seulement avec les maharim. Condition, devant son père, devant son mari, devant son oncle, devant qui? Devant ses enfants. Mais si c'est devant des étrangers, elle doit cacher ses pieds. On ne doit rien voir, yani, de ses pieds quand elle fait la salat. Mais si elle est devant les maharim, les gens avec lesquels elle peut pas se marier, il a dit dans ce cas, si ses pieds, yani, on voit par exemple ses doigts, ses orteils, etc., il a dit ce n'est pas interdit. Et c'est l'avis de qui? C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Autre chose, quand une personne, par exemple, est avec l'imam, une personne est avec l'imam, ensuite, maintenant, l'imam a terminé la salat et moi, je n'ai pas terminé. Il me reste, par exemple, une raka car je suis arrivé en retard. L'imam a dit salam alaykoum et moi, je me lève pour terminer ma raka qui me manque. Des fois, quand je me lève, je trouve que je suis loin de la sutra. Je suis loin de la sutra, ou bien par exemple la personne qui était avant moi, en face de moi, qui faisait la salat, yani, quand elle a dit salam, elle est partie. Donc, les gens risquent de passer, yani devant moi, il n'y a pas la sutra. Il a dit ici, il a dit, si quelqu'un veut maintenant chercher une sutra, il a dit, à condition qu'il ne dépasse pas deux pas, disons maximum trois, pour avancer, pour reculer à droite, à gauche. Pourquoi? Parce que certains yani, marchent presque yani, 5-6 mètres pour chercher la sutra. Il dit, on lui dit, pourquoi tu fais comme ça? Il dit, il n'y a pas de sutra. Et le message d'Allah a dit, il n'y a pas de salat sans sutra. Je suis obligé d'avancer, même si je suis à la fin de la mosquée, je vais aller jusqu'au début de la mosquée pour m'approcher du mur. On lui dit, ça, ce n'est pas permis. Ce qui est permis, c'est seulement deux pas, ou alors trois au maximum. Il a dit ici, pourquoi? Premièrement, parce que ça contredit le khushu'. Quelqu'un qui va te voir, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, celui-là est en train de marcher, il n'est pas dans la salat. Subhanallah, il a marché tous ses pas. Ce n'est pas vrai, il n'est pas dans la salat. Il dit, premièrement. Et deuxièmement, ça se contredit avec le khushu', comme je dis. Et ensuite, lui, cette personne, quand elle a commencé avec la sutra. C'était qui sa sutra? C'est la sutra de l'imam. Il était derrière un imam qui avait une sutra. Donc pour lui, il a fait déjà la sutra en commençant. Et il y a une règle dans au solfège qui dit l'amru la yufid at-takrar. L'amru la yufid at-takrar. C'est-à-dire que il y a pas y a, y a, ça c'est dans au solfège, yani pour que Allah Ta'ala te dise si c'était la sutra ici obligatoire, il y aurait eu un autre ordre qui dit même si la sutra part, vous devez rechercher une autre sutra. Et comme ça. Et il a dit, cette personne a fait ce qu'elle pouvait faire. Non. Autre chose ici, inshallah ta'ala, il a dit, إذا أقيمت صلاة يخرج من نافلة والفرض بتسليم كما خرج ذلك الصحابي الذي قال له صلى الله عليه وسلم الصبح أربع ركعات. Quand quelqu'un est en train de faire la salat dans la mosquée par exemple, et qu'il entend quoi? Il entend la iqama de la salat. Il est en train de faire une salat. Et voilà que, yani maintenant, la salat va commencer, l'autre a commencé à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à Qatram Salat, Qatram Salat, etc. Vous savez que il lui est interdit de terminer la salat à l'autre personne, celle qui est en train de faire la salat. Il lui est interdit de terminer la salat. Il faut qu'il sorte de sa salat pour aller rentrer avec qui? Avec l'imam. Même s'il est en train de faire une salat obligatoire. Même de l'obligatoire, il doit sortir. Pas seulement de la nafila. El-Mohim, bien sûr, sauf s'il lui reste seulement quelques secondes. Il est dans le tashahhud, il le termine vite. Ou il est dans la dernière prosternation, il la termine vite et il rentre avec les gens. El-Mohim, ce qui nous intéresse ici, maintenant, s'il lui reste beaucoup, il lui reste une raka, il lui reste deux raka, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit sortir de la salat. Mais doit-il sortir en disant salam alaykoum ou bien il quitte directement sans dire salam alaykoum? Car le messager d'Allah a dit que il a dit, si vous entendez l'iqama, il n'y a plus de salat, celle que tu es en train de faire n'existe plus. Et, sauf celle qui est avec l'imam, sauf la salat de l'imam. Donc, certains savants ont dit, puisque quand il y a l'autre salat qui a commencé, celle de l'imam, puisque la mienne n'existe plus, donc elle est invalide. Et si elle est invalide, à quoi ça sert que je dise salam alaykoum? Donc direct, de ma salat, je vais vers l'autre. Et d'autres ont dit non, de préférence, il dit salam alaykoum et il va vers l'autre salat. Le cheikh ici dit, naam, l'avis le plus juste, inshallah, c'est de dire salam alaykoum. Se basant sur un hadith où le messager de l'Aïssa a vu quelqu'un faire la prière alors qu'ils étaient en train de faire la prière aussi. Naam, ou bien juste, il venait terminer la salat, il s'est retourné, il a vu quelqu'un en train de faire aussi salat sobh. Il lui a dit, sobh 4, sobh 4, tu fais 4 sobh, deux avec nous et deux tout seul. Alors l'autre lui a montré que, yani, il était en train de quoi? Il est en train de rattraper salat al-fajr, qu'il n'avait pas faite. Cette personne, quand il lui a dit comme ça, elle est sortie de la salat en disant salam alaykoum. En disant salam alaykoum. Donc, l'avis du cheikh ici, c'est que en sortant de la salat, on doit dire salam alaykoum pour aller dans notre salat. Mais je donne juste une petite remarque. Même si on doit dire salam alaykoum, ça ne veut pas dire que je dois me tourner à droite et à gauche. Car l'essentiel dans salam alaykoum, c'est de le prononcer. Même si c'est seulement avec les lèvres, ce n'est pas la peine de dire à haute voix. Comme ça, entre mes lèvres, je dis salam alaykoum et je sors. C'est même pas obligé que je me tourne vers la droite ni vers la gauche. Moi-même, je dis salam alaykoum entre mes lèvres et je sors. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend de ce hadith aussi? On prend de ce hadith que le messager d'Allah a vu une personne faire quoi? Faire salat al-fajr après salat al-sobh et il ne lui a pas dit pourquoi. Il lui a dit pourquoi tu fais le sobh 4 rak'at? Il lui a dit non, c'est salat al-fajr. Il lui a pas dit pourquoi tu fais salat al-fajr. Donc on prend de ça quoi? On prend de ça que la sunna, pour quelqu'un qui n'a pas fait salat al-fajr et qui est arrivé à la mosquée, il a trouvé des gens en train de faire salat al-sobh, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse salat al-sobh avec eux. Il lui est interdit de faire salat al-fajr. Il fait salat al-sobh avec eux. Ensuite, quand il termine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit salam alaikum, salam alaikum. Il fait par exemple l'adhkar et il va derrière un pilier par exemple, il va faire salat al-fajr tout seul. S'il ne fait pas comme ça, alors il peut attendre jusqu'au, inshallah ta'ala, au lever du soleil. Ensuite, quand le soleil s'est bien levé, il pourra faire salat al-fajr bi'idhna ta'ala. Ici, c'est salat al-maghrib. Je vais vous laisser, inshallah ta'ala, le temps aussi que vous prépariez vos questions. Et je vais, inshallah ta'ala, on va se rencontrer après salat al-maghrib, inshallah ta'ala. Subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.